Bonjour et bienvenue sur YogiBiz Podcast, le yoga teacher training du marketing pour les yogipreneurs qui veulent impacter des millions de vies positivement grâce au yoga. Je suis Cécile, coach et accompagnatrice digitale spécialisée pour les professeurs de yoga. Et chaque semaine, je vous délivre des inspirations, stratégies et conseils marketing éprouvés et applicables immédiatement pour vous construire un business de yoga authentique et rentable grâce aux opportunités du web. C'est parti! Hello à toi et bienvenue dans cet épisode de YogiBiz Podcast. C'est le 7e et dernier épisode de notre série spéciale FAQ 200 heures. Et peut-être que j'ai gardé le meilleur pour la fin, je sais pas. Mais en tout cas, aujourd'hui, on va parler de mindset parce qu'il peut y avoir des freins, des blocages, des fausses croyances qui te freinent dans le développement de ton activité, dans ton passage à l'action. Et puis, on va aussi parler un petit peu organisation et les questions qui m'ont été posées tournaient aussi pas mal autour de l'équilibre finalement. On sent la recherche de comment faire pour développer mon activité sans me cramer. Et certaines des élèves du 200 heures m'ont aussi parlé HD. Donc, t'imagines bien que je me réjouis de cet épisode qui sera donc un mélange de mindset, organisation et HD. En tout cas, l'objectif, c'est comment développer ton activité de prof de yoga tout en étant aligné finalement évidemment à toi et à qui tu es et à tes objectifs de vie. Donc si tu es d'accord, aujourd'hui on va répondre aux questions suivantes. Alors ça c'est une première question qui m'a fait un pincement au cœur. Comment être crédible face aux clients quand on est une femme et une jeune prof? Et oui, encore aujourd'hui, certaines d'entre nous se posent ce genre de questions. Donc ça me semblait vraiment hyper important d'y répondre. Comment rester bien aligné avec soi dans son activité? Comment je peux utiliser mon human design dans ma vie de prof? Comment planifier mes cours de manière à garder un équilibre sain dans ma vie? Quel est le nombre d'heures de travail par semaine qu'on doit dégager pour espérer un salaire de 5K, donc de 5000 euros par mois en digitalisant son activité? J'aime beaucoup ce genre de questions. Et enfin, pourquoi la digitalisation est-elle obligatoire, surtout si on n'est pas du tout fan des réseaux sociaux, et ou de mettre en avant son image physique sur les réseaux? Donc là, il y a trois questions en une pour moi. Il y a beaucoup de choses à dire. Donc on est parti. Je pense que ça va être un épisode assez intense. Alors, pour répondre à notre première question, comment être crédible face aux clients quand on est une femme et une jeune prof? Eh bien, juste la première chose que j'ai envie de dire par rapport à ça, même si, bien sûr, encore une fois, ça me fait mal au cœur de me dire qu'on peut être une femme et une jeune prof dans ce monde d'aujourd'hui et encore se questionner là-dessus, en fait. Donc, comme quoi, on a encore beaucoup de chemin à faire. Mais la première chose, déjà, c'est que être une femme et être plus jeune n'a rien à voir, en fait, avec ta crédibilité. Donc, tu n'es pas moins crédible parce que tu es une femme et tu n'es pas moins crédible parce que tu es jeune. Donc, évidemment, là, on voit bien qu'il peut y avoir un travail à faire de confiance en soi, un travail qui peut peut-être se faire aussi en allant travailler sur ses qualités objectives. Mais surtout, moi, ce que j'ai envie, parce que évidemment, on pourrait faire tout un épisode hein, sur ce genre de sujet. Ce que j'ai envie de dire, au-delà effectivement de cultiver et de nourrir cette confiance et de te faire accompagner probablement pour ça, mais c'est que de te focusser, de te concentrer, de tourner ton regard sur ce que tu as à transmettre et à qui tu veux le transmettre. En général, on se pose beaucoup de questions sur soi. Est-ce que je suis assez? Est-ce que je suis crédible? Est-ce que c'est bien ce que je fais? Etc. Quand on, justement, parce qu'on reste tourné sur sa propre personne. Moi, je t'invite à plutôt te tourner vers qu'est-ce que je peux apporter aux gens, qu'est-ce que j'ai envie de partager, comment je peux les aider. Et donc, encore une fois, de te refocuser sur le fait que Tu es le messager, la messagère, l'ambassadrice d'un message, de quelque chose que quelqu'un attend probablement ton partage d'expérience pour lui aussi avancer vers ses objectifs ou changer quelque chose peut-être dans sa vie, améliorer quelque chose. Et donc dans ce cas-là, focus-toi sur ce que tu as à transmettre, focus-toi sur l'autre, focus-toi sur l'accompagnement, focus-toi sur le message, sur ce que tu veux faire passer, plutôt que de te questionner sur toi-même, entre guillemets. Bien évidemment, à partir du moment où tu t'assures quand même de venir travailler aussi cette confiance en toi en parallèle. Au-delà de ça, il y a aussi quand même des choses en business. Si on veut pas être décrédibilisé, mais peu importe son âge et peu importe son sexe, bien évidemment, mais c'est de savoir aussi poser son cadre. C'est pas parce que on est jeune, ou c'est pas parce qu'on démarre, ou c'est pas parce que peut-être on se sent inférieur ou quoi que ce soit, ou pas assez, qu'on doit pas poser son cadre. Ça, c'est hyper important. C'est hyper important quand on est coach, mais c'est hyper important, en fait, dans tous les domaines. Poser son cadre, ça veut dire quoi? Ça veut dire bien expliquer comment c'est de fonctionner avec toi, à quelle heure ça commence, à quelle heure ça fini selon les objectifs fixés, que la séance elle durera tant ou qu'il y aura tant de séances, que tu te feras payer à tel moment, que tu veux te faire, payer peut-être avec tel moyen de paiement, que tu feras tel et tel peut-être type de yoga, mais pas ça et ça. Donc c'est vraiment d'être hyper au clair avec toi ce que tu vas proposer et de pas dire on verra bien, ça c'est pas grave, je suis arrangeante, on fait comme tu veux. En fait, ça ne te servira jamais, et contrairement à ce que tu penses que ça aura un impact positif, et souvent on fait ça parce que justement on veut montrer en fait que travailler avec nous c'est super et qu'on est adaptable, flexible, tout ce qu'on veut, et ça a tous les effets contraires de ça, c'est-à-dire que au contraire c'est peut-être ça qui viendra entacher finalement un aspect professionnel ou encore une fois peut-être ton sérieux, ta crédibilité ou autre. Donc vraiment, moi si j'ai un conseil à vous donner dès qu'on démarre comme ça, et encore plus j'ai envie de dire quand on n'a pas confiance en soi, c'est d'être bien au clair sur le cadre qu'on vient poser, encore une fois, donc sur tous ces éléments qui peuvent être des variables d'ajustement dans ta manière de délivrer tes services, quels qu'ils soient, que ce soit des cours en individuel, en collectif, pour un studio, pour toi, dans un programme ou autre. Par exemple, moi j'ai un groupe privé dans mon accompagnement et c'est important pour moi. Je peux pas être toute la journée à répondre aux questions de ce groupe privé. J'y passe le matin, donc voilà, souvent je réponds aux questions le matin, mais je n'y repasse pas forcément 3, 4 ou 5 fois dans la journée, et j'y suis le lundi, le mardi, le jeudi, le vendredi. Si j'y suis une fois de temps en temps le week-end ou le mercredi, c'est parce que je peux, et donc avec plaisir je vais le faire, mais mon cadre il est défini, et c'est aussi quelque chose d'ailleurs qu'on retrouve dans mes conditions générales de vente. Mais au-delà de tout ça, en fait, c'est vraiment de bien expliquer comment ça va se passer de travailler avec toi. Et puis après, il y a d'autres petites choses aussi qui vont favoriser ça, comme par exemple, d'arriver à l'heure au-delà de poser ton cadre. Enfin, c'est un peu l'histoire des droits et des devoirs, tu sais, mais toi aussi, du coup, est-ce que tu arrives à l'heure? Est-ce que tu arrives avec ta séance préparée? Est-ce que, tu arrives avec les bonnes informations ou les bons éléments? Donc ça, c'est aussi extrêmement important et ça va jouer sur ta crédibilité, mais crois-moi, que tu sois jeune ou pas jeune. Mais c'était important pour moi de bien reparler de ça ou redéfinir ça, parce que c'est pas parce qu'on est dans un business de bien-être ou qu'on est peut-être dans un business où on va passer un bon moment à faire du yoga sur un tapis que pour autant ça doit être plus olé olé et fait un peu à l'arrache en fait. Des clients peuvent être vraiment sensibles à ça. Donc voilà pour ma réponse à cette première question. Ensuite, donc pour la deuxième question, comment rester bien aligné avec soi dans son activité? Alors, il y a plusieurs questions dans la question. J'ai l'habitude en tant qu'ancienne commerciale de vraiment décortiquer chaque mot d'une question, puis aussi effectivement dans le coaching. Mais en fait, là, il y a comment finalement être bien aligné avec soi dans son activité, et puis il y a comment le rester. Donc, la première chose pour être aligné avec soi dans son activité, c'est de pas y aller au feeling, en fait. Je sais que beaucoup de personnes disent « Non, mais moi, j'y vais à l'intuition. Non, mais moi, je fonctionne au coup de cœur. Oui, non, mais moi, j'aime pas les trucs planifiés. Non, mais c'est bien. » Mais en fait, si tu veux un business qui fonctionne, y aller au feeling, c'est ce qui va clairement, à un moment donné, te couper de ta sécurité financière. Et c'est ce qui fait aussi qu'à un moment donné, tu seras la personne qui se retrouvera débordée, qui arrivera pas à mettre en place tous ses projets, etc. etc. Donc, ça veut pas dire ne pas y aller au plaisir. C'est-à-dire que ça va être très important si tu veux avoir un business qui est aligné avec toi, une activité qui est alignée avec toi. Ça va être important de savoir qu'est-ce que tu veux que ton biz t'apporte et te permette de faire au quotidien. Comment finalement tu veux vivre chacune de tes journées? Puisque si tu as choisi de développer ton business, d'être indépendante, c'est aussi finalement pour réussir à avoir effectivement un business qui te ressemble, qui est sur mesure pour toi, qui correspond à tes objectifs de vie, etc. etc. Donc la question c'est effectivement quels sont tes non négociables en termes de temps, en termes d'énergie, en termes de plaisir et en termes d'argent. Et à partir du moment où tu vas avoir défini ces non négociables, du coup, tout ton écosystème de business, que ce soit ton business model, ton écosystème d'offres, ta communication, etc., eh bien, l'objectif, c'est que ce soit aligné avec ça et avec tes non négociables. Donc, ça, pour moi, c'est déjà quelque chose qui est extrêmement important. De deux, pour rester bien aligné avec toi dans ton activité, bah, effectivement, il y a toujours cet aspect, je pense, de continuer à travailler sur soi et de se connaître le plus possible. Donc, c'est un petit peu en lien, hein, justement, avec ces non négociables, parce que plus je me connais aussi, plus je vais peut-être pouvoir mieux fixer ou le plus honnêtement possible, en tout cas, c'est non négociable. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui va être important. Et puis, comment rester bien aligné dans son activité? Alors là, moi, ce que je t'invite à faire, c'est deux choses. La première, c'est effectivement de pas toujours être le nez dans le guidon, mais par moment de savoir faire des pauses, de savoir prendre de la hauteur et de réserver un temps pour travailler sur ton business. Alors peut-être que ce sera pas toutes les semaines, mais du coup, mon deuxième conseil par rapport à ça, c'est de prendre le temps de faire des bilans régulièrement pour justement ajuster. Comme tu le sais, moi, ce que j'aime quand on fait un bilan, c'est que ça nous permet de dire « Ok, qu'est-ce qui a bien fonctionné et que je garde ? Qu'est-ce que je peux améliorer ?» Qu'est-ce que je laisse de côté à l'inverse, tu vois? Qu'est-ce que vraiment je veux plus, faut que j'arrête ou faut que je mette moins d'énergie là-dedans. Donc vraiment ça va nous permettre de faire un peu le scope de tout ça, de faire l'inventaire de tout ça. Par exemple en HD à l'inverse, je recommande aussi souvent de faire l'inventaire de toutes les sphères de sa vie pour effectivement sentir par exemple en fonction par exemple pour un manifesteur générateur de là où il y a encore du plaisir et de là où à l'inverse il y a de la frustration et de l'épuisement et ensuite bah, on va pouvoir savoir quelle décision prendre par rapport à ça. Donc c'est vraiment faire des bilans régulièrement pour ajuster, modifier, pivoter, ajuster, améliorer, renoncer, supprimer, délaisser, reporter. Ça, c'est vraiment extrêmement important. Et donc, j'entends parfois, oui, mais moi, j'aime pas les bilans. Oui, mais moi, j'aime pas. Ben, en fait, le bilan, il permet de rester bien aligné avec soi dans son activité et il permet justement de prendre cette hauteur sur là où on va avec son entreprise. Quels sont, est-ce qu'on a les bonnes stratégies ou pas par rapport à nos objectifs. Et encore une fois, est-ce que effectivement on est toujours aligné, parce qu'on a vite fait de s'en détourner, crois-moi, à non négociable. Ça, c'est vraiment aussi quelque chose que plus j'avance dans le business et plus je me rends compte, on a très très vite fait de hop faire un pas de côté, un pas à droite, un pas à gauche, de s'embourber dans un truc. D'où l'importance vraiment de régulièrement venir s'auto-coacher, faire des points, faire des bilans, c'est extrêmement important. Alors moi si je te donne mon exemple, parce que peut-être que tu te dis mais c'est quoi ces non négociables de temps, d'énergie, de plaisir, d'argent, etc. Ben, si je te donne des exemples pour moi, hein, clairement, parce que c'est un exercice que j'ai fait, puis c'est d'ailleurs un exercice qu'on fait dans Yogi Bizline aussi. Eh bien, moi, Par exemple, ce qui va être important en termes de temps, c'est que je sais que dans mon emploi du temps, je veux avoir du temps pour moi tous les jours. D'ailleurs, une fois, on m'avait fait le reproche sur un coaching one-one de ne pas proposer beaucoup de créneaux, donc beaucoup de latitude, de flexibilité et de choix. Et de me dire, mais tu nous dis que tu as du temps, que tu as créé un business justement où tu as du temps et tu ne nous proposes pas beaucoup de créneaux. Bon, déjà, il faut savoir qu'à la base, il y avait un jour défini pour ces coachings, donc j'avais pas forcément à proposer d'autres créneaux. Et de deux, en fait, j'ai pas du temps dans mon business pour travailler encore plus. J'ai du temps dans mon business parce que je veux créer un business et un business model où j'ai plus de temps pour moi. Du temps pour être avec mon fils, du temps pour faire du yoga, du temps pour aller me balader, courir ou autre. Du temps pour moi et aussi du temps en tant qu'introvertie pour me ressourcer, pour me retirer aussi. Donc ça, c'est extrêmement important dans mes non négociables de temps. Donc comment je fais ? Par exemple, pour pas avoir un rendez-vous tous les jours. Voilà, c'est vraiment, ça va forcément venir driver la manière dont je vais créer mes offres, mes services, mes formats, mes accompagnements, etc. Je ne ferai non plus pas de compromis sur mon temps avec mon fils. C'est-à-dire que non, je vais pas ajouter un créneau, un rendez-vous. Voilà, tout devient important en fait quand on est en business. Très souvent, enfin, on a le sentiment que justement, si on fait pas régulièrement des bilans et des points sur la to-do list. Et moi, ce qui est sûr et ce qui est non négociable, c'est que je fais pas de compromis sur mon temps avec mon fils. Donc, je ne prendrai pas de rendez-vous aux heures où j'accompagne mon fils à l'école, aux heures où je vais le chercher, au moment où je peux être avec lui, par exemple, un peu plus le mercredi. Ça, c'est niet pour moi, c'est un choix de ma part. Je vais aussi, par exemple, plutôt privilégier des services ou des offres où je dépose les choses, où je viens répondre et où je repars. Autrement dit, je vais pas être dans un processus où je fais partie de, comment dire, vraiment, je suis pas toujours en train de solliciter la communauté, je suis pas en train de suivre sur du long terme quelque chose. Non, je viens, je dépose, je réponds, je repars. Ça, c'est extrêmement important pour moi. Ça correspond à aussi mon souhait d'avoir des services, des offres qui m'offrent effectivement le plus de liberté. Donc voilà, je pourrais continuer longtemps comme ça parce que j'ai dressé évidemment plusieurs de mes non négociables et puis il y en a qui changent, ça évolue, etc. Mais comme par exemple pouvoir travailler de n'importe où aussi, ça c'est extrêmement important pour moi. J'aime voyager, je voyage, je veux voyager dans ma vie plusieurs fois par an, donc c'est important pour moi que je puisse continuer mon business peu importe où je me trouve. Donc par définition, effectivement, je vais forcément ne pas m'engager sur du présentiel de manière régulière, fréquente, c'est pas possible pour moi, ça pourrait pas faire partie de mon quotidien. Ok ? Donc bon, là j'ai un petit peu mélangé effectivement en termes de temps et en termes d'énergie pour aller un petit peu plus vite. En termes de sécurité financière par exemple, je veux pouvoir aussi avoir effectivement des services qui me permettent de rentrer de l'argent même quand je suis pas là ou même quand je suis pas en train de créer sur les réseaux ou même quand je suis pas en train de faire la promotion de mon offre. Donc je veux pouvoir avoir des choses automatisées, des choses qui tournent toutes seules, des choses que mes clientes peuvent avoir accès quand elles veulent aussi, même si je suis pas là, même si je suis pas disponible et même si j'en ai pas fait la promotion récemment. Donc typiquement de l'evergreen et de l'automatisation. J'aime aussi avoir commencé chacun de mes mois, ne pas les commencer à zéro. Ça, c'est quelque chose qui a été game changer pour moi petit à petit en développant mon activité. Et donc ça, comment ça se passe ? C'est particulièrement avec des paiements notamment en plusieurs fois par exemple. Et ça, c'est hyper important pour moi d'avoir du CA prévisionnel et d'avoir déjà de la visibilité. Donc je fais en sorte aussi d'adapter mes roulements d'offres peut-être ou mes modalités de paiement à ce truc de ne commencer aucun mois à zéro. Et par-dessus tout, ce que j'aime, et surtout sur des accompagnements plus de proximité, c'est travailler avec des personnes avec qui j'ai déjà travaillé. Et donc, effectivement, là, c'est tout l'intérêt de focuser sur « je veux que mes clients soient satisfaits » et créer des offres où ils vont réinvestir avec moi. Donc ça aussi, ça fait partie de mes non négociables en termes de finances et de sécurité financière, entre guillemets, c'est de privilégier la fidélisation. Donc, tout ce que je mets en œuvre, c'est aussi de manière à me dire comment je fais pour que tel client retravaille avec moi, quelle est l'offre idéale, quelle est l'étape d'après idéale, quelle offre va être le choix incontestable de mon client pour ensuite passer à telle étape ou telle autre étape. Ok ? Donc voilà, ça c'est différents exemples. Et puis si je vous donne un exemple par exemple sur le non négociable du plaisir, j'aime par exemple avoir, j'ai beaucoup par exemple, hein, j'aime avoir la posture de consultante, j'aime avoir la posture de coach et j'aime avoir la posture de mentor. J'aime aussi avoir la posture de formatrice. Donc, comment je fais, soit dans une offre pour avoir plusieurs de ces casquettes, ou encore comment je fais pour avoir plusieurs offres qui me permettent d'avoir chacune une de ces casquettes, par exemple. Et ça, pour moi, ça répond à mon petit côté multicasquette, multipassionné, besoin de diversité, de faire des choses différentes. Bah, clairement, là, ça vient y répondre. Tout comme aussi, j'aime avoir différentes offres parce que différents formats et aborder différents sujets, pareil, ça me permet de ne pas m'ennuyer. Donc, tout ça, c'est des choses que j'ai listées et qui font partie de mes non négociables. J'espère que ça te donne un petit peu de la perspective. Alors, il y a encore plein d'autres choses, hein, comme par exemple, moi, j'ai besoin de parler, j'ai besoin de faire du live, je déteste enregistrer des choses, j'ai besoin d'être en live, alors, sauf pour les besoins d'une formation. J'aime l'audio, en fait, hein, voilà, beaucoup plus effectivement que la vidéo, le visuel ou autre. Donc, je vais aussi m'assurer que dans tous mes services et même, tu vois, dans le fait de délivrer mes analyses HD, c'est un format qu'on trouve très peu, mais c'est mon format de prédilection pour délivrer mes analyses HD. Et vu les retours que j'ai, je crois que ça fait vraiment son effet. Et typiquement, c'est une de mes forces pour cette offre-là. Et c'est pour ça aussi qu'elle fonctionne aussi bien. Donc, encore une fois, quels sont tes non négociables? Et à partir de là, eh bien, tu seras encore le plus possible finalement aligné à ton activité. Parce que tu vas créer un écosystème qui va te permettre tout ça. Donc, c'est vraiment les premières questions à te poser. Alors, un petit peu en lien avec cette question, comment je peux utiliser mon human design dans ma vie de prof ? Eh bien, le human design, il nous donne des informations sur plusieurs aspects de nous-mêmes, par exemple notre fonctionnement énergétique au quotidien. Le Human Design va nous donner des informations sur comment on est conçu finalement pour investir au mieux nos journées en termes d'énergie. Donc, comment employer et utiliser notre énergie et notre temps au quotidien dans l'organisation de notre vie, dans l'organisation de notre business. Donc, forcément, eh bien, à partir de là, pareil, on va pouvoir prendre les caractéristiques, par exemple, de différents formats d'offres et mettre en face, en fait, ce qui va le mieux nous correspondre, par exemple, par rapport à notre fonctionnement énergétique. OK. Donc, comment s'organiser aussi, ça va pouvoir venir jouer là-dessus. Par exemple, comment organiser des cycles de création d'offres, d'idées, de créativité versus des cycles de repos. Donc, des cycles un peu d'intégration et des cycles de créativité. Donc, le fait d'avoir des informations sur notre fonctionnement énergétique, tu vois, ça va avoir de l'impact là-dessus. Autre chose aussi, le human design nous donne des informations sur la manière dont on vibre et donc un petit peu notre communication non verbale, ce qu'on émane finalement comme informations qui sont pas forcément visibles, on appelle ça l'aura. Ça peut être très utile pour comprendre du coup comment fonctionnent nos relations aux autres et en fait dans le business, qu'est-ce qui nous rend magnétique finalement? Et quelque part ça va nous donner confiance un peu, c'est un peu une histoire de foi, c'est en fait j'attire les personnes, c'est ça qui attire les personnes chez moi. Donc j'ai pas besoin de forcer dans un autre sens ou même de forcer pour forcément mettre ça en avant, c'est quelque chose qui travaille pour moi entre guillemets, hein, un peu comme un contenu long de manière très pragmatique travaille pour vous sur la durée. Eh bien, il y a aussi quelque chose chez nous qui fait que on va attirer plus ou moins les gens parce qu'on est comme ci ou parce qu'on est comme ça. Je disais l'autre jour, je crois que c'était dans mes coachings, moi j'aime les choses profondes, j'aime donner des détails, j'aime expliquer les choses parce que j'ai aussi cette ligne 1 dans mon profil qui fait que voilà, je m'intéresse beaucoup, je creuse les sujets, j'ai vraiment besoin de me documenter, d'analyser, de creuser, etc. Je sais que on va venir travailler naturellement avec moi parce que je peux pas le cacher en fait. Je le renvoie dans mes contenus, je le renvoie dans mes podcasts, je le renvoie dans mes ressources, je le renvoie dans mes formations. formation. Et quelque part, on sait que quand on vient chez moi, on va trouver quelque chose de bétonné avec beaucoup d'informations, beaucoup de, en tout cas de choses dont on peut avoir besoin. Je vais pas juste effleurer les sujets. C'est pas pour autant que c'est pas droit au but. C'est pas pour autant que c'est pas, il y a pas bien un process étape par étape. C'est pas pour autant parce que je suis en même temps effectivement j'avance vite en tant que manifesteur générateur en plus. Donc j'aime aussi aller à l'essentiel et me délester de toutes les étapes qui seraient pas nécessaires. Mais voilà, je vais toujours prendre soin de bien expliquer les choses, de bien démystifier, démocratiser les concepts, les rendre simples, les rendre faciles. Et donc ça passe pour moi effectivement par ce besoin d'expliquer les choses. Donc cet aspect-là, en fait, je le vibre naturellement. J'ai pas besoin de le renforcer ou l'énergie un peu de motivation. Pareil, je la vibre assez naturellement quand on est à mon contact. Donc, je sais aussi que je vais attirer des personnes par ce biais-là. Et en fait, ça apporte quoi ? Ben, ça apporte que quand on le sait, on avance aussi plus en confiance et on s'amuse même avec ça dans le bon sens. Hein. C'est-à-dire que voilà, quand on y pense, bah on voit en fait comment les choses effectivement on les attire enfin assez naturellement grâce à ça. Donc on va pouvoir utiliser notre aura un petit peu dans justement notre façon d'être, de communiquer, de se montrer aux autres en fait. Ce que ça va aussi nous permettre, c'est de savoir à quelles opportunités répondre. Donc là, on va être plutôt sur la stratégie et l'autorité. Donc, ne pas dire oui à tout, savoir quand c'est juste pour nous, ne pas se laisser forcément disperser aussi dans nos idées ou rester dans notre mental et savoir quand est-ce que c'est le bon moment pour nous de passer à l'action, par exemple. On va aussi avoir nos indicateurs d'alignement et nos ce qu'on appelle nos émotions boussoles qui vont nous indiquer justement, et là je reviens à tout à l'heure, je disais faire le bilan et comment savoir rester si on est aligné à soi, et bien justement ces émotions boussoles, hein, on en a chacun deux dans notre human design, elles vont nous permettre de savoir quand il y a peut-être quelque chose à rectifier. Donc ça va permettre de nous remettre régulièrement sur le bon chemin, parce que encore une fois c'est tout naturel aussi de s'en égarer. Un autre chose par exemple que moi j'aime beaucoup 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 travailler en business, ce sont toutes les circuiteries en human design, et en fonction de notre circuiterie, eh bien on va pouvoir aussi affiner le business model selon quel niveau de proximité on a envie d'avoir, quel niveau d'engagement, quel niveau de support, quel niveau de délégation, etc. Tout ça dans le human design, on a des informations là-dessus. On va aussi avoir des informations sur comment on gère la pression. Donc ça peut être extrêmement intéressant, par exemple, pour savoir quelle stratégie de lancement choisir. Si je suis quelqu'un, effectivement, qui n'aime pas les délais ou les deadlines, ou peut-être aussi travailler pendant trop longtemps sur la préparation de quelque chose ou autre, eh bien, peut-être qu'une stratégie de lancement avec des dates d'ouverture, de fermeture, etc., ce sera pas forcément ce qu'il y aura de plus aligné pour moi. Et inversement, si j'ai au contraire le centre de la racine par exemple défini. Donc selon comment je gère la pression, eh bien je vais pouvoir travailler différemment et m'organiser différemment en fonction de mes délais, je vais pouvoir m'organiser différemment dans mon agenda, je vais pouvoir m'organiser différemment par rapport à mes priorités, la gestion de mes priorités et donc notamment aux stratégies de lancement que je vais choisir, des stratégies plus ou moins douce, j'ai envie de dire, ou plus ou moins challengeante, énergisante, drivante, si j'ai justement un bon lien avec cette pression positive. Après, tout reste possible pour tout le monde quand même, à partir du moment où justement je viens pas faire ça tout le temps, si toutefois c'est pas quelque chose qui est vraiment aligné avec moi ou dans ma nature. Ça n'empêche pas de le tester, par exemple, mais c'est pas quelque chose que je serais supposée peut-être faire tous les jours ou trop régulièrement. Donc voilà, le travail des différents centres va nous permettre de connaître aussi nos forces, de savoir là où effectivement on a des petits travers qui viennent ou des petits challenges qui viennent nous chercher. Par exemple, le centre du cœur va nous en dire beaucoup aussi sur comment on fait les choses, à partir de quelle attention, parce que c'est le centre de l'estime de soi, c'est le centre de est-ce que je fais les choses pour prouver que, ou est-ce que je fais vraiment les choses parce que voilà, c'est comme j'ai envie de les faire et ça fait partie de moi. Donc vraiment, il y a tellement de choses. Et pareil, le travail des centres aussi va nous aider sur quel format d'offres créer, pour savoir si voilà des offres plus ou moins courtes, plus ou moins longues, plus ou moins intenses, etc., etc. Donc vraiment, c'est Je pourrais en parler pendant des heures là aussi encore, mais on voit à quel point le human design du coup va forcément avoir de l'impact dans ton activité de prof de yoga. Si tu t'y intéresses, si tu t'y intéresses pas du tout, ce sera possible aussi que ton activité de prof de yoga elle se développe, mais évidemment ça peut créer des raccourcis, des déclics, voilà, éviter de perdre du temps dans certains cas. Donc c'est toujours des choses qu'on aime quand on développe un business. Donc en tout cas, les bénéfices finalement, c'est que le human design, il va t'aider à mettre des mots peut-être sur des choses que tu ressens, mais que tu sais pas comment les utiliser concrètement. Et puis aussi, peut-être que t'osais pas assumer ces parts-là de toi. J'ai par exemple une très bonne cliente qui me dit souvent « Non, mais maintenant, Cécile, j'assume que j'aime travailler, que j'ai besoin de travailler pour me sentir bien, que le travail, c'est mon ancrage. » Elle est manifesteur générateur. Et en fait, elle arrête de s'excuser de travailler, en fait. Et c'est OK pour elle que cette sphère de sa vie soit une de ses priorités et qu'elle y investisse du temps, de l'énergie et aussi pourquoi pas de l'argent d'ailleurs. Donc voilà, c'est extrêmement important parce que ça permet d'oser assumer certaines choses, de révéler d'autres choses qu'on comprenait peut-être pas ou qu'on croyait qui n'allaient pas chez nous, mais en fait bah c'est à partir du moment où on va mettre de la conscience dessus, il y a des choses effectivement sur lesquelles on va pouvoir s'auto-coacher et évoluer, et puis d'autres choses où on va pouvoir partir de ça en fait pour créer les choses autour de nous plutôt que de vouloir les changer à tout prix. Donc d'une manière générale, il y a souvent effectivement cet effet waouh et le sentiment de mieux se comprendre immédiatement, ce qui va venir nous apaiser, ce qui va venir nous libérer très vite, ce qui va nous permettre de nous accepter aussi et donc de finalement on va avoir plus de facilité aussi à actionner les choses, à mettre des choses en place pour que ça, et ça deviendra plus fluide en fait en fonction de notre fonctionnement naturel. On va aussi se recentrer en fait plus facilement pour avancer mieux, pour éviter de se perdre dans le syndrome de l'objet brillant. Donc vraiment, c'est comme un peu retrouver son libre arbitre et redevenir entre guillemets responsable finalement de ses décisions, de ses actions. Donc moi j'aime vraiment beaucoup l'impact que ça peut avoir sur un business. Donc finalement, on voit que quand on travaille sur nos non négociables, qui sont en fait, on a chacun les nôtres, et c'est pour ça qu'on peut pas copier le modèle du voisin, la stratégie qui fonctionne pour un tel, et il faut arrêter d'écouter finalement tous les conseils business trop qui veulent nous amener dans une solution ultime, parce que l'idée c'est que chaque solution a des choses qui peuvent te correspondre ou ne pas te correspondre. Donc d'où l'importance de quels sont tes non négociables à toi et quelle est ton unicité en fait en termes de fonctionnement, et de venir combiner ces deux choses-là pour développer un business dans lequel tu vas le mieux te retrouver et le mieux kiffer et voilà, le mieux forcément développer. Ok. Autre point aussi du human design, c'est que si tu décides toi d'intégrer le human design dans tes services en tant que prof de yoga, tu vas pouvoir. Alors, je dis prof de yoga, mais je sais aussi thérapeute. Il y a beaucoup de thérapeutes qui m'écoutent aussi. Tu vas pouvoir du coup utiliser le HD pour tes clientes. Tu vas pouvoir utiliser les centres en HD pour développer par exemple des pratiques de yoga adaptées. On a aussi des transits en HD qui sont rattachés à différentes portes. Chacune des portes a ses propres caractéristiques. Donc, on peut aussi imaginer aller développer des pratiques de yoga en fonction de ces portes. Certaines sont d'ailleurs définies ou pas chez nous. Et puis, on peut aussi aller explorer, par exemple, donc en coaching individuel ou en séance individuelle, de même sur un accompagnement yoga un petit peu plus holistique, en fait, des questions assez puissantes de journaling, des choses aussi qu'on va pouvoir retranscrire, par exemple, dans des méditations. Donc, encore une fois, c'est tout un tas d'informations qui peuvent nous permettre, du coup, d'allier et de créer des pratiques de yoga, de méditation, de respiration, de journaling, etc. Dans nos accompagnements encore plus adaptés, enfin qui vont permettre finalement à la personne qu'on accompagne, qu'on coach, à qui on donne des cours privés, ben finalement d'avancer encore plus vite peut-être sur ce qu'elle est venue chercher. Et quand je dis plus vite, c'est pas dans le sens vouloir aller vite tout le temps à tout prix, mais c'est de mettre le doigt au bon endroit plus vite en fait, de venir travailler les bonnes choses plus rapidement. Le HD touche aussi l'alimentation, l'environnement, les peurs, les émotions. Donc on voit quand même que c'est très en lien avec ce qu'on peut faire par le yoga. Et d'ailleurs, moi j'ai cette idée de développer une pratique de HD yoga. Et pour toutes les personnes qui ne sauraient pas dans quoi se spécialiser, par exemple en yoga, bah, ça pourrait être une des spécialisations. Et aussi, donc, dans le format Yogi to Coach qui arrive bientôt, enfin, la bêta test arrive bientôt. Eh bien, l'idée, c'est justement comment aussi utiliser l'EHD pour tes clientes, mais sans avoir besoin de te former pendant des mois. Donc, d'aller mettre le doigt sur ces points essentiels dans une charte HD. Moi, je vais faire de la curation, en fait, hein, pour toi et pour te permettre, toi, derrière, de pouvoir utiliser cet outil lors de cours de yoga, de programmes de yoga, d'accompagnement de yoga, etc. Mais sans rentrer dans la technique, en fait, de l'outil en lui-même. Donc, évidemment, ça peut permettre, moi ça me permet d'accompagner mes clients en coaching et en développement business, mais c'est un levier et un outil formidable pour accompagner les gens aussi dans leur bien-être, et donc on peut tout à fait associer très très facilement au yoga, à un accompagnement sur l'alimentation, etc., etc. Donc voilà pour la partie HD. Ensuite, j'ai une autre question. Comment planifier mes cours de manière à garder un équilibre sain dans ma vie? Bah, je pense qu'il y a toute une partie de cet épisode finalement qui répond bien à cette question, puisque encore une fois, ça va dépendre de ton énergie et donc de comment ton énergie elle se manifeste sur une journée type, par exemple. Ça va dépendre aussi de ton organisation de vie. Peut-être que tu as des paramètres, donc de ta vision, de ta vie de famille, de tes fameux non négociables dont on a parlé. Donc, est-ce que c'est plutôt juste pour toi, par exemple, de concentrer tes cours sur sur plusieurs journées et d'avoir une partie de ta semaine libre? Est-ce que c'est plus safe pour toi d'avoir une journée où tu donnes des cours, une journée de repos, une journée où tu donnes des cours, une journée de repos? Est-ce que c'est mieux pour toi, par exemple, d'avoir des cours tous les matins et d'être libre tous les après-midi? Donc voilà, est-ce que c'est plutôt concentré? Est-ce que c'est plutôt un peu chaque jour? Est-ce que les horaires, bah si t'as peut-être, je sais pas, une vie de famille ou une vie sociale et puis c'est hyper important pour toi de voir tes amis tous les jours, vous vous retrouvez après le travail pour eux, voilà, ça serait quand même dommage que tu viennes te couper de ça qui probablement te nourrit en donnant des cours par exemple en studio entre 17h et 20h, alors que bah quelque part c'est quelque chose qui est important dans ton équilibre. Donc bah, les horaires des cours que tu peux donner par exemple, que ce soit en présentiel dans un studio à ton compte ou même en ligne, si t'as parfois des lives ou des zooms ou autres, eh bien ça serait dommage d'aller les mettre à un moment où en fait toi t'as d'autres non négociables à ce moment-là, tu vois. Idem, ça dépend aussi comment planifier mes cours de manière à garder un équilibre. Est-ce que c'est des cours où tu fais de la distance, donc où tu as besoin de temps par rapport à ça, ou pas? Et donc, quelque part, est-ce que tu les gardes, justement, ces cours par rapport à... ça veut dire quoi, se rendre à ce cours? Ça veut dire peut-être c'est une heure de cours, mais c'est 3 heures de ton temps ou 4 heures de ton temps, tu vois. Donc, comment planifier mes cours pour garder un équilibre sain dans ma vie? Bah, encore une fois, c'est de revenir à ton énergie, à ton temps, à tes objectifs de vie et donc à ton plaisir aussi et donc à tous ces non négociables qu'on a échangés ensemble. Alors, autre question, donc quel est le nombre d'heures de travail par semaine qu'on doit se dégager pour espérer un salaire de 5000 euros en digitalisant son activité? Donc d'abord, ce que je voudrais dire, d'abord il n'y a pas de réponse à cette question, il n'y a pas de réponse à cette question, parce que ça va aussi dépendre de ce que tu veux vendre, ça va dépendre de à qui tu vas t'adresser, ça va dépendre de si tu es déjà connu ou pas, ou si tu as déjà une audience ou pas, ça va dépendre de ta capacité à mettre en œuvre, à passer à l'action ou pas. Enfin, il y a tellement de choses qui dépendent de ça qu'il n'y a pas de réponse. Et si jamais un jour un coach te dit tu vas faire 5K, rejoins mon offre pour faire 5K en tant de temps, etc., tu vas peut-être le faire une fois parce que ça c'est possible sur une offre ou un truc, mais ça nous intéresse pas. Ce qu'on veut faire, c'est 5K par exemple par mois, tous les mois, ok? Et ça va être, c'est pas forcément la même histoire. Alors, ce que je veux dire, c'est que il faut pas forcément beaucoup de temps pour arriver à dégager, par exemple, 5000 euros de chiffre d'affaires par mois. Tout comme ça peut être aussi long. Mais c'est pas vrai de dire il faut 3 ans pour dégager 5000 euros de chiffre d'affaires par mois. C'est une connerie. Et c'est pas vrai non plus de dire que ça peut être fait. C'est une success, un night success. Ça peut arriver. Un très beau coup, une très belle offre, un truc qui fonctionne bien. La rencontre parfaite de l'offre et la demande, ça peut arriver. Moi, mon premier programme en ligne, j'ai fait un lancement sens de malade dès la première fois, ok, très bien. Mais enfin voilà, ça peut aussi faire un flop et marcher au bout de la 10e fois. Mais encore une fois, il n'y a pas de juste timing, c'est pas vrai. On peut aller vite et développer un business rentable qui correspond à notre objectif de chiffre d'affaires rapidement. Comme ça peut prendre du temps. Ce que j'aimerais dire par rapport à cette question, c'est que en fait là, le souci pour moi, c'est plutôt de passer du mindset de salarié, parce que quand j'entends quel est le nombre d'heures de travail par semaine que je dois me dégager pour atteindre ce salaire de 5000 euros, en fait là pour moi le gap, c'est passer du mindset de salarié. Le mindset de salarié, c'est celui où je suis payé à l'heure entre guillemets, à celui d'entrepreneur. Ok, donc c'est-à-dire que là on est dans un échange, on est encore dans une on se pose cette question sous le spectre de j'échange mon travail contre de l'argent. Quand on passe dans l'entrepreneuriat, quand on digitalise aussi son activité, eh bien c'est un peu la pyramide inversée au début. Donc oui, tu peux gagner de l'argent très vite, mais il y a aussi ce truc de tu vas peut-être passer du temps à créer des choses, enfin ou à travailler sur ton business au début, et donc c'est et pas gagner tout de suite en fait le fruit peut-être de ce que t'es en train de semer, d'accord? Donc les questions à te poser dans cette idée-là, c'est qu'est-ce que tu vas créer une fois mais que tu vas pouvoir vendre des dizaines de milliers de fois derrière? Ou encore, qu'est-ce que tu vas créer tous les mois, comme par exemple des vidéos, des cours préenregistrés ou autres, mais où tu vas pouvoir viser des abonnements illimités derrière, un nombre de personnes illimitées et des abonnements illimités, et même d'ailleurs des contenus, des vidéos, des choses que tu vas pouvoir recycler, peut-être pas à l'infini parce que ça peut mal vieillir aussi, mais tu vas pouvoir quand même l'utiliser dans plusieurs services, dans plusieurs de tes offres, ok ? La question que tu peux te poser aussi, c'est comment tu peux vendre ton offre avant même de passer du temps dessus à la créer. Donc, en fait, tu vois, vraiment, quand on veut vivre de sa propre activité, qu'on veut aussi digitaliser son activité, parce que là, c'était la question, hein, pour espérer un salaire de 5000 euros en digitalisant son activité, bah, il faut changer de mindset. Il faut sortir du mindset salarié temps argent et aller plutôt sur ce mindset d'entrepreneur où l'équation peut être inversée aussi au début, mais comment ce que tu mets en place va pouvoir en fait être 10 000 fois beaucoup plus impactant en termes de nombre vendu, de personnes touchées, etc., etc. Le digital, ça veut pas dire travailler moins et surtout au début. Donc ça, je pense qu'il faut qu'on soit clair là-dessus. Ça veut pas dire du tout travailler moins au début. Et digitaliser son activité, c'est un job à temps plein. C'est un job comme un autre. La seule chose, c'est que souvent, ça amène plus de confort dans la manière de travailler. Ça veut dire qu'on peut travailler de chez soi. On peut travailler de n'importe où dans le monde. Donc, on est libre de partir quand on veut, de revenir. On peut effectivement travailler aussi n'importe quand ou sans réelle contrainte. Donc, on peut se rendre disponible s'il y a besoin pour les enfants, pour la famille, pour les amis, et ainsi de suite, en fait. Travailler en ligne, c'est aussi et surtout ça. Mais à aucun moment, c'est un job à temps partiel. Et à aucun moment, ça veut dire, entre guillemets, travailler moins. C'est juste travailler différemment. Par contre, il est vrai que dans le temps, en fait, comme il y a cet aspect de revenu sans qu'on ait besoin d'être présent, comme il y a cet aspect de vendre à un nombre de personnes illimité, de pouvoir toucher des personnes en illimité, comme il y a cet aspect de pouvoir vendre pendant qu'on est occupé à faire autre chose, bah effectivement, il y a cet aspect du digital, en fait, où à un moment donné, oui, c'est vrai, on peut gagner bien sa vie, avoir des revenus récurrents et en même temps jouir de cette liberté, de cet équilibre vie pro perso et travailler moins, c'est certain. Maintenant, pour le vivre, plus on avance, et c'est comme pour tous je pense, et plus en fait on a des nouvelles idées, on a envie de mettre en place de nouvelles choses, on a des nouveaux problèmes aussi qui arrivent, des nouveaux challenges, plus on a de clients, plus on a aussi de messages, de choses à répondre, etc. Donc bon voilà, hein, c'est pas C'est pas je travaille 2 heures par jour et c'est fini et je vais boire mes cocktails sur une île déserte. Mais ça amène toute cette flexibilité, cette liberté, cette souplesse, cet impact vraiment et beaucoup plus d'options et de choix dans tout ce qu'on va pouvoir développer aussi, hein. Donc voilà, c'est ce en quoi je crois que la digitalisation fait aussi notre richesse au-delà du salaire et du nombre d'heures travaillées. Et enfin, donc dernier point, pourquoi la digitalisation est-elle obligatoire, surtout si on n'est pas du tout fan des réseaux et ou de mettre en avant son image physique sur les réseaux? Alors déjà, la première chose, encore une fois, comme j'ai dit dans cette question, pour moi, il y a 3 points. La digitalisation n'est pas obligatoire. Tu fais ce que tu veux. La digitalisation, c'est le levier. Si aujourd'hui, tu veux vivre pleinement de ton activité de prof de yoga et en tout cas dépasser le plafond de verre que tu auras à un moment donné, si tu fais tes calculs dans tous les sens, de vendre tes services en présentiel à l'heure, à l'unité ou au collectif, peu importe, mais à un moment donné, sur cette manière de faire là, donc le fameux business model historique du métier de prof de yoga et de thérapeute d'ailleurs, qui font aussi des accompagnements à la séance, eh bien tu seras juste limité en fait. Donc la digitalisation n'est pas obligatoire, mais tu auras plus de chances de bien et mieux vivre de ton activité. Et encore une fois, ça va dépendre de tes objectifs, si effectivement tu digitalises ton activité. Disons que si demain tu veux vraiment faire du yoga, ton job à 100% et en vivre bien, encore une fois, tout cela dépend de tes objectifs personnels, de tes objectifs de vie, eh bien la digitalisation est incontournable. Tout comme la digitalisation, c'est pas non plus que des offres en ligne, c'est aussi utiliser le digital pour te faire connaître, pour communiquer, etc. Et donc ça, je pense que c'était l'autre partie justement, la suite de ta question. L'autre point concernant la digitalisation, c'est que c'est aussi ce que les gens veulent aujourd'hui, une majorité des gens en tout cas, ça fait partie, on vit dans une ère de la digitalisation, alors peut-être qu'on n'avait pas tout le pied dedans dans notre plus jeune âge, mais aujourd'hui, on vit actuellement et donc on travaille dans une ère qui est celle de la digitalisation. Et donc, il y a des nouveaux modes de vie par rapport à ça, qui se sont encore plus développés qui ont été amplifiés, je dirais, par le confinement qu'on a vécu et la crise sanitaire qu'on a connue. Et ça fait maintenant partie aussi, c'est une manière que nos clients de yoga, nos pratiquants de yoga, ont de consommer le yoga, de pouvoir aussi pratiquer de n'importe où, avec toi, avec leur prof, etc. Donc, tu peux choisir de ne pas te digitaliser, en conscience et en sachant que du coup, c'est un public que tu ne toucheras pas. Et enfin, la digitalisation, non, elle n'est pas obligatoire. Maintenant, elle permet aussi de toucher et donc d'impacter le plus de monde. Et donc, est-ce que toi aussi, tu as envie de pouvoir impacter plus de gens que peut-être un cercle restreint dans ton village, ta ville, tes connaissances, ton entourage? Est-ce que là où tu es, est-ce que finalement ça fait pas aussi partie de tes objectifs d'impacter encore plus de monde, et auquel cas la digitalisation fait sens à ce moment-là? Maintenant, pour la partie si on n'est pas du tout fan des réseaux, sous-entendu, pourquoi pas se digitaliser, mais par contre je suis pas fan des réseaux. Eh bien, il faut quand même, effectivement, les réseaux sociaux ont une place prépondérante dans nos quotidiens aujourd'hui, mais c'est aussi possible de vendre ses produits digitaux sans passer par les réseaux sociaux. On peut aussi développer un site, on peut aussi utiliser Pinterest, on peut aussi optimiser son référencement, on peut aussi, pourquoi pas, utiliser de la pub. On peut aussi utiliser d'autres médias comme YouTube ou comme le podcast. On ne peut avoir qu'une présence, une vitrine sur les réseaux sociaux et travailler d'autres stratégies. Moi, je connais beaucoup des profs de yoga, certains, mais d'une manière générale, beaucoup d'indépendants, d'entrepreneurs, etc. Tout le monde n'est pas sur les réseaux tous les jours, tout le temps, et voire même des fois pas du tout. Donc, en fait, La question que j'aimerais que tu te poses, si c'est un de tes freins ou un truc qui te bloque, tu vois, dans le développement de ton activité, c'est quel est le rapport et ce que tu crois que t'es obligé de faire pour les réseaux sociaux, en fait? Parce que souvent, c'est ça qui bloque. C'est ce que tu penses que les réseaux sociaux veulent dire et ce que tu crois que t'es obligé de faire pour être présente sur les réseaux sociaux. Et donc, finalement, la vision que tu as des réseaux sociaux, mais avec tout un tas d'idées probablement fausses, en fait. Parce que si tu vois les réseaux juste comme un endroit pour venir déposer ton message et connecter avec des gens et repartir quand tu le souhaites, pas forcément être là tout le temps en train de scroller, de publier tous les jours, etc., alors peut-être que tu arriveras à développer un rapport aussi différent aux réseaux sociaux. Si tu le vois comme un endroit de connexion, si tu le vois comme un endroit pour être vu et entendu, mais pas forcément pour être aimé en tant que tel, alors peut-être que tu développeras un rapport différent aux réseaux sociaux. Quant à la croyance de mettre en avant son image physique sur les réseaux, eh bien non, en fait, on est aucunement obligé de mettre en avant son physique sur les réseaux sociaux. T'es même pas obligé de te montrer. Alors, je t'avoue très sincèrement que si tu développes ton activité en ton nom, les gens en fait aimeront te voir quoi que tu en penses. Ils aimeront connecter avec toi, ils aimeront te découvrir. Forcément, il va y avoir une énergie différente si tu te montres que si tu te montres pas. Mais t'es pas obligé de te montrer tout le temps, t'es pas obligé de parler face cam, t'es pas obligé de faire des reels où on te voit. Il y a plein de... Et t'es surtout pas obligé de faire des postures de dingue, hein, mais ça j'en ai parlé dans un des épisodes déjà. Donc vraiment, ce qui compte en fait, c'est que tu te centres aussi sur ton client et c'est sur ce que tu as envie de partager avec l'objectif en fait d'apporter quelque chose qui va servir à ton client idéal. Et peut-être que ça peut être une voix off, peut-être que ça peut être des carousels où tu expliques des trucs, peut-être que... Voilà, mais en fait, t'es pas obligé de te montrer et t'es pas que obligé de faire des super belles photos de postures super avancées de yoga. Pas du tout. Tu peux même avoir des photos, Delphine Jolie fait ça très bien, où il y a des zooms, par exemple. Peut-être que t'es quelqu'un qui aime les mudras ou je ne sais pas. Il peut y avoir des zooms sur ce type de posture, mais en aucun cas, on est obligé forcément de te voir, tu vois. Donc, il y a plein de possibilités aujourd'hui qui existent pour être présente sur les réseaux sociaux sans devenir esclave des réseaux sociaux, en fait. Pour moi, le truc qu'on doit pas oublier concernant les réseaux sociaux, c'est que c'est surtout et avant tout un levier de communication gratuit qui nous permet gratuitement de passer nos messages, comme je disais tout à l'heure, d'être vu, d'être entendu, de partager ce qu'on a envie de partager. C'est un peu comme le petit journal ou le bottin de l'époque où on allait mettre notre pub et payer souvent pour la mettre ou imprimer tout un tas de flyers. Bah aujourd'hui, on peut le faire en ligne et on peut le faire via les réseaux sociaux. Après, les réseaux sociaux, c'est pas forcément Instagram, il y en a aussi plusieurs. Et on peut aussi trouver celui qui nous correspond le mieux. Et on peut aussi se développer avec du contenu plus long. Il y a vraiment plusieurs possibilités, plusieurs stratégies possibles. C'était donc ma réponse à cette dernière question et c'était aussi ma dernière réponse pour conclure cette série de podcasts. J'espère vraiment que ça vous a plu, que c'était intéressant et utile pour vous aussi, que ce soit réparti par thématique. Voilà, j'espère que vous avez apprécié ce marathon du podcast et pour le coup, je vous invite vraiment à me laisser un petit commentaire sur Apple Podcasts ou ailleurs si vous écoutez pas sur Apple Podcasts, c'est possible aussi sur Spotify maintenant. Parce que vraiment, voilà, j'ai mis beaucoup d'énergie dans ce marathon du podcast et dans cette série spéciale FAQ. Donc, si vous l'avez encore jamais fait, bah, c'est peut-être l'occasion de prendre quelques minutes de votre temps pour me laisser un petit mot et pour me dire en quoi ça vous a aidé, ça vous a été utile ou ça vous a aussi peut-être ouvert des perspectives. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que suite à la présentation que j'avais fait dans ce 200 heures, finalement, tous les retours que j'avais eus, hein, c'est de voir à quel point toutes les possibilités finalement qu'offre le digital, soit si on veut un biz 100% en ligne, mais aussi si on choisit un modèle d'affaires hybride, parce que c'est tout à fait possible, et même je trouve ça moi super, de combiner les deux. Donc, le business model historique enfermait en fait hein, le prof de yoga dans un métier qui ne permettait pas de bien gagner sa vie, entre guillemets, avec le yoga. Et ce qui est important de comprendre, c'est que vraiment, c'est plus le cas à l'heure du digital. Il n'y a plus ce plafond de verre. On n'a plus non plus à s'épuiser, à se cramer. On peut être prof de yoga et aller chercher quelque part une vie équilibrée tout en gagnant bien sa vie et en étant capable sans stress de payer ses factures. Donc vraiment, on a tout maintenant entre nos mains pour le faire. On peut plus se cacher derrière le truc que vivre de son activité de yoga. Bah aujourd'hui, c'est dur, c'est pas possible, c'est des salaires très bas, etc. Non, aujourd'hui, c'est possible. Évidemment, la concurrence existe, comme on a vu, mais la concurrence, elle se bat sur des cours de yoga à l'unité. Donc, on a vu aussi à quel point il y avait beaucoup, beaucoup d'autres choses à faire. On a vu, du coup, que la clé, c'était de diversifier ses offres et ses revenus, mais de pas le faire n'importe comment pour ne pas s'éparpiller, tout comme ne pas le faire à n'importe quel prix, d'ailleurs. Et donc, ça, clairement, bah, c'est la méthode flow hein, que j'enseigne moi avec la suite d'offres dans Yogi Bizline pour avoir un business aussi qui tourne en continu même sans sa présence. On a aussi parlé visibilité et donc on a vu que la visibilité à tout prix et partir tête baissée dans une course à toujours plus de followers, et ben ça mène nulle part. Alors qu'avec un système d'offres bien pensé, on va pouvoir ne pas recommencer de zéro toute cette communication à chaque fois et en même temps fidéliser nos clients plutôt que de tout le temps justement en chercher de nouveaux et avoir un peu ce stress là. On a vu aussi donc que la base d'un business, et bien finalement c'est aussi de bien se connaître de soi puisque ça part de soi et donc de partir aussi sur la base de ses propres apprentissages pour transmettre de sa propre histoire avec le yoga et donc de ne pas venir créer des offres au hasard si on veut un business durable, donc un business qui s'adresse avec lequel on sait bien à qui on s'adresse, mais aussi un business qui va nous apporter du plaisir, de la liberté, du temps, de l'énergie et de la sécurité financière. Enfin, on a vu que créer du contenu, c'est pas faire des postures what the fuck sur Instagram et qu'on peut choisir le contenu qu'on veut créer, qu'on peut choisir la plateforme sur laquelle on va se concentrer en fonction de ce qu'on aime faire, en fonction de cette prédisposition aussi naturelle de l'audio, de la vidéo, de l'écriture, des visuels, etc. Et que finalement, si je devais résumer tout ça, moi j'ai quand même envie encore de passer le message que moi c'est des conseils que je vous partage et je suis sûre que de ça vous pouvez déjà largement avancer dans le développement de votre activité. Mais quoi qu'il en soit, je pense qu'il ne faut jamais oublier en business que c'est difficile de savoir ce qu'on ne sait pas. Et donc forcément, c'est difficile à la fois d'avancer tout seul, tout comme c'est aussi difficile d'avancer en écoutant finalement tout ce qui se dit, tous les conseils, même moi hein, finalement je fais partie aussi de ça, mais qu'à un moment donné en fait on a besoin de se faire aider pour justement ou se faire accompagner pour savoir apprendre ces choses qu'on ne sait pas, pour avoir aussi des conseils personnalisés comme moi par exemple je peux apporter dans mes coachings collectifs dans Yogi Bizline, vraiment du conseil personnalisé, qu'on a besoin de soutien aussi, que c'est nul de rester seul dans son coin et qu'on n'avancera pas beaucoup si on reste isolé et si on publie nos trucs et puis après on se cache et on attend que ça fonctionne. Donc vraiment je prêche pour ma paroisse, mais en fait c'est juste la stricte vérité. Et d'ailleurs tous les profs de yoga que j'ai pu interviewer sur le podcast le disent, il n'y a rien à faire, se faire accompagner, ne pas rester seul, être coaché, connaître, apprendre comment fonctionne le business, avoir pour développer toutes ces compétences et ces qualités d'entrepreneur, c'est essentiel si demain tu veux développer un business de yoga qui fonctionne et qui va durer dans le temps. Donc évidemment, si tu veux le faire et si tu veux être accompagné, tu peux le faire avec moi en rejoignant mon programme business Yogi Bizline. C'est aujourd'hui le yoga teacher training du business pour les profs de yoga. C'est le seul et unique programme pour les profs de yoga qui existe pour développer leur business. Vraiment, je t'accompagne moi de A à Z sur tous les aspects qu'on a pu voir pendant cette série FAQ, mais juste je t'accompagne pas en fait parce que je à la fois je te forme, forme, à la fois je te donne des outils prêts à l'emploi pour que tu puisses avancer plus vite sans te prendre la tête avec la technique, à la fois je te coach, à la fois je réponds à tes questions au quotidien, à la fois je te fais profiter de toutes les mises à jour parce que le business est un monde qui avance vite, et je serai toujours là puisque c'est un accès à vie et illimité. Donc en plus tu peux revenir piocher dans tous les apprentissages et dans toutes les stratégies vraiment à ton gré. Donc voilà, c'est pour ça tout simplement que c'est le meilleur accompagnement business que tu puisses trouver pour t'accompagner dans le développement de ton activité de yoga. Ça s'appelle Yogi Bizline. Toutes les infos sont dans les notes de cet épisode, dans ma bio, sur mon site internet. Vraiment, tu retrouveras les informations partout. Et moi, je reste évidemment disponible pour répondre à tes questions si tu en as encore ou si tu en as d'autres et de nouvelles suite à l'écoute de ces épisodes. Je pense que j'ai bien mérité de m'arrêter là pour aujourd'hui. En tout cas, j'ai passé un super bon moment avec toi et ça m'a vraiment plu de passer du temps justement, tu vois, à créer ce genre de contenu plutôt qu'à créer des posts Instagram à tout va. Donc je suis ravie de ce marathon du podcast. J'espère que toi aussi. N'oublie pas de me laisser un petit commentaire. On se retrouve la semaine prochaine avec une interview d'une de mes clientes qui justement cumule studio de yoga, offre de yoga en ligne avec une vidéothèque et aussi une formation pour les profs de yoga à venir. Donc j'ai hâte que tu découvres ça. Je te laisse ici, on se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, porte-toi bien. Bye bye.